Radio Okapi. Billy Ivan Lutumba pour le journal.
Projet de loi électorale, le seuil d'1% ramené par le Sénat seul au niveau de la circonscription au lieu de national et la caution par siège demeure de 1 000 $. Avec ceci, le projet a donc été voté ce vendredi à la Chambre haute avec 61 voix pour. Les casques bleus tués à Béni ont eu des hommages mérités ce vendredi à Goma. Des hautes personnalités des Nations Unies, de la RDC, de la Tanzanie, leur pays, ont effectué les déplacements de Goma. Dans ce journal, nous vous faisons le point de toute la cérémonie. D'autres morts dans un accident de circulation ce matin au sud Kivu. Ce sera peu avant d'aborder dans notre dossier la situation des droits de l'homme dans la Tchopo et aussi de suivre l'entretien avec notre invité, le ministre de la Défense, sur la mort des 14 casques bleus tués. Merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. C'était attendu depuis par tous les Congolais et d'autres observateurs. Le Sénat a voté ce vendredi le projet de loi électorale en des termes différents de l'Assemblée nationale. 61 sénateurs ont voté oui, 11 tous de l'opposition ont voté non et 5 se sont abstenus. Comme à l'Assemblée nationale, ce texte voté n'a pas fait l'unanimité au Sénat en dépit des modifications apportées. Les sénateurs de l'opposition ont protesté le maintien du seuil bien que ramené à la circonscription ainsi que le cautionnement. Un texte final et harmonisé sera donc voté ce soir après la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat en cours. Michel Kifindangoy.
Contrairement à l'Assemblée nationale qui a opté pour un seuil national d'1%, le Sénat ramène au niveau de la circonscription les seuils toujours à 1%. Ce qui veut dire les partis politiques n'ont plus l'obligation de réaliser plus d'1,5 million de voix sur plus de 40 millions votants pour prétendre bénéficier d'un siège au Parlement. Il leur suffira donc, par exemple, de réaliser seulement environ 10 000 voix sur 1 million de votants d'une circonscription. Cette divergence, enfin tranchée par la plénière du Sénat, n'a pas pu trouver un compromis au niveau de la commission PAJ de cette Chambre. Cependant, à propos de la caution, le Sénat a retenu 1 000 $ par siège, tel qu'arrêté au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas enchanté du tout certains sénateurs de l'opposition. Quant à la machine à voter, elle est complètement élaguée de ses projets de loi. À ce stade, le jeu se joue au niveau de la commission mixte paritaire, Assemblée nationale et Sénat, qui doit aplanir les divergences principalement sur la question du seuil qui divise jusqu'ici les deux chambres.
Parlons présentement des casques bleus de la MONUSCO. Les cérémonies de dernier hommage à ces vaillants soldats d'origine tanzanienne tués à Semuliki dans le territoire de Beni se sont déroulées ce vendredi à Goma. Plusieurs personnalités de l'ONU, celles du gouvernement congolais, tanzanien, ainsi que les responsables militaires de la MONUSCO et des FRDC ont marqué de leur présence à cet événement. Récit des faits, Gabriel Wamenyo.
C'est dans une ambiance d'émotion et de recueillement total que la cérémonie d'hommage aux soldats des pays tués à Beni s'est déroulée dans l'enceinte de la MONUSCO. Les premiers à prendre la parole à cette cérémonie, c'est le commandant des forces de la MONUSCO. Le général Derrick Ngwebi a eu une pensée pieuse pour les casques bleus tués, leur famille ainsi que leur pays, la Tanzanie. Derrick Ngwebi a déclaré que ces soldats ont accompli dans la loyauté et la discipline leur mission jusqu'au sacrifice suprême. Prenant la parole, le chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidiku, s'est dit consterné par cette tragédie. Le patron de la MONUSCO a ensuite dit que ce drame est irréparable pour les familles ainsi que pour les pays de ces soldats. De son côté, l'ambassadeur de la Tanzanie a réitéré le vœu de voir les autorités congolaises diligenter une enquête urgente pour retrouver les soldats tanzaniens disparus pendant l'attaque. Le ministre de la Défense de la RDC, présent à cette cérémonie, a promis de mettre fin au phénomène EDF avant de louer la bravoure des soldats de la paix. Enfin, le chef des opérations des maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a dit que le meilleur hommage qu'on peut rendre à ces soldats de l'humanité, c'est de rester unis pour la seule cause, la paix. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Réaction de l'ONU justement. Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix annonce des mesures de sanctions contre les auteurs du meurtre des 14 casques bleus tanzaniens tués dans la zone de Semliki au Nord Kivu le 7 décembre dernier. Jean-Pierre Lacroix vient de faire cette déclaration ce vendredi à Goma pendant la cérémonie du mémorial en l'honneur de ces casques bleus. Après sa tournée à Kampala puis en Tanzanie et Goma, le sous-secrétaire général affirme que les Nations Unies vont collaborer avec toutes les parties prenantes pour l'aboutissement des enquêtes en cours. Jean-Pierre Lacroix au micro de Bernardin Nyangui.
J'ai participé hier à la cérémonie en leur hommage à Dar es Salaam et aujourd'hui je suis ici à Kampala et aussi ici à Goma. J'ai rendu visite à tous les soldats tanzaniens blessés. J'ai constaté aussi avec satisfaction qu'ils étaient bien soignés et c'est très réconfortant. J'ai rendu hommage à l'engagement de la Tanzanie en faveur des Nations Unies, en faveur du maintien de la paix. J'ai dit à quel point nous apprécions et nous sommes convenus de travailler ensemble. J'ai également rencontré avec les responsables militaires tanzaniens, les responsables militaires d'Afrique du Sud et du Malawi, donc les trois pays qui font partie de la brigade d'intervention. Et nous sommes également convenus de travailler ensemble pour faire une MONUSCO encore plus forte au service du Congo. Et j'ajoute que, au-delà du fait qu'il faudra tirer les conséquences et prendre les mesures nécessaires pour améliorer nos dispositifs, bien entendu, la coopération avec les autorités congolaises, la coopération avec les forces de sécurité est déterminante. Le rôle des pays de la région aussi, des pays voisins, est tout aussi important pour traiter de manière appropriée ce phénomène très dramatique. Attaquer des soldats de la paix, c'est un crime de guerre. Tout doit être fait pour que les auteurs de ce crime soient traduits en justice.
La mort des 14 casques bleus tanzaniens de la MONUSCO est une perte non seulement pour la Tanzanie, mais pour l'humanité tout entière. Propos de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, Anthony Cheche, a fait cette déclaration lors de la cérémonie ce vendredi d'hommage à ses soldats de la paix. Il réitère la détermination de son pays à poursuivre la lutte aux côtés de la RDC à travers la MONUSCO pour le rétablissement de la paix, mais aussi la répression de ces meurtres. Anthony Cheche, dans ses propos recueillis par Bernard Denyangi.
Ça ne fait aucun doute que ceci est une grande perte des soldats de la paix dans l'histoire des opérations de maintien de la paix et qui certainement cause des grandes souffrances et tristesses, non seulement pour les Tanzaniens, mais également pour tous les peuples du monde. Nous prions que Dieu étende sa main puissante pour guérir les blessés de cette attaque meurtrière et qui sont en soins dans différents hôpitaux pour qu'ils guérissent et continuent à servir dans la MONUSCO. J'en profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux autorités de la MONUSCO pour leur grand soutien au bataillon tanzanien et à mon pays depuis que cet incident dramatique a eu lieu. Nous allons continuer à travailler avec les Nations Unies pour nous rassurer que les auteurs sont identifiés dans un bref délai et que cette faute est bien corrigée.
Correct those mistakes.
Ils étaient au service de la population. Voilà pourquoi Radio Okapi a tendu son micro à celle-ci. À Goma, la population se dit concernée par ce qui est arrivé aux casques bleus tanzaniens. Ils ont abandonné leur famille pour contribuer à la recherche de la paix en RDC. Ils ne devraient pas mourir de cette façon. Tout en demandant que les auteurs de ces actes soient sévèrement punis, les habitants de Goma proposent que tout soit fait pour que pareil acte ne se reproduise plus jamais. Ils sont au micro de Rosalie Zawadi.
Nous avons été très touchés par ce qui s'est passé. Je pense que lorsque les gens doivent quitter d'autres pays et puis venir ici pour nous défendre, nous, et puis qu'ils meurent comme ça, ça nous fait très mal. Nous devons faire un effort en tant qu'habitants du Nord Kivu pour que ça ne se répète pas. S'il y a des informations, que les gens puissent les donner pour éviter de telles surprises.
Il s'agit de vies humaines, c'est triste d'une manière lâche qu'on puisse apprendre aux soldats de la paix. Nous regrettons et nous condamnons de vive voix ces genres d'actes. Nous voudrons à ce que justice soit faite.
C'est très dommage parce que ces gens ont laissé leur famille, ils sont venus ici. Cela fait de la peine parce que aussi, c'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants. Et puis, cela fait mal parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel et on est vraiment confus, nous qui sommes ici.
Vraiment, c'est triste. Tout d'abord, la perte humaine, c'est toujours mauvaise. Ils sont en train de voir comment notre région soit en paix. Les autorités et toute la population doivent se mettre ensemble pour que la paix revienne le plus tôt possible.
Remontant présentement vers le nord-est du pays, les habitants de Bogoro, à 25 km au sud-est de Bunia, sont en grande partie contre le retrait des casques bleus de la MONUSCO de cette localité stratégique qui avait connu des massacres il y a 14 ans pendant la grande guerre interethnique de l'Ituri. Ils l'ont exprimé jeudi à une délégation de la mission onusienne en RDC qui est allée leur annoncer la nouvelle. José Deschartes Menga exprime leurs inquiétudes dans ce reportage.
Tous les interlocuteurs de la MONUSCO de ces jours sont sceptiques à Bogoro, des autorités civiles et militaires en passant par les femmes et les jeunes. Ce qui était jusque-là une rumeur pour eux se confirme. Les casques bleus quittent. Serge Kossi, chef des délégations.
Nous sommes envoyés par le chef de bureau de la MONUSCO de l'Ituri pour lui annoncer la fermeture prochaine du COB de Bogoro.
C'est-à-dire que les casques bleus se retirent de Bogoro.
Les casques bleus se retirent de Bogoro.
Les habitants de Bogoro, voisins du bastion des miliciens des FRPI, craignent de revivre les cauchemars de 2003. En effet, il n'y a qu'un tiers de la population rassurée par la présence de l'ONU qui est rentrée depuis au village. Le reste aura sûrement peur de retourner, comme l'affirme Benjamin Rouigoua, chef intérimaire de ces groupements.
Nous percevons les retraits de la MONUSCO comme l'amputation des bras du corps humain sur les places sécuritaires. Est-ce que nous aurons vraiment l'espoir de rester vivre ici? La population a peur. Ceux qui voulaient retourner au village ne rentreront plus. Ils ont peur des FRPI qui sont nos voisins et qui opèrent juste à côté de nous ici.
La MONUSCO indique cependant qu'elle va garder une base opérationnelle à Aviba, à 70 km de là. Ce que les victimes d'hier de Bogoro, vivant entre montagnes et vallées difficiles, jugent trop distant pour les sauver en cas d'attaque. De retour de Bogoro, José Deschartes Mengamboula, Radio Okapi.
Sud Kivu, cette fois-ci, un accident de circulation a fait 15 morts et 17 blessés, dont de grièvement ce matin, peu avant 7 heures locales. C'était sur la route Bukavu-Bunyakiri, à l'entrée du centre commercial de Boulambika, dans le territoire de Kalehe. Un camion chargé des marchandises en direction de Hombo Sud est tombé dans la rivière Kayaya, suite à l'écroulement de la partie droite du mur du soutien du pont. Parmi les 15 victimes, notre source indique qu'il y a un enfant de 12 mois. Témoignage d'un activiste des droits de l'homme, Destino Balie Nangabo, contacté au téléphone sur le lieu de l'accident par Jean Kassami.
Vers 6h45, un véhicule du papa Kapanda vient de causer un accident chez Kayaya. Le mur a été écroulé côté droit en quittant Bukavu. C'est là où il y a 14 morts et un enfant aussi qui fait 15 sur les champs. Tout simplement, c'est la construction d'abord. Décanez-vous de dire qui est-ce qui est déjà arrivé. Il y a longtemps que nous déplorons ça. Ils ont construit mal et on a déploré ça. Dès qu'on a suspendu les activités là-bas, mais il fallait affecter le gouvernement qui déploie maintenant une équipe de l'office des routes pour aller construire là-bas. Voici maintenant les drames qui viennent de se présenter. Nous sommes tous ici, les autorités locales de Bunyakiri.
Il y a eu des survivants.
Il y a eu quelques personnes, nous venons de les voir. Je ne sais pas si le gouvernement a besoin de la population. Comment il peut délaisser la population comme ça?
La même source prévient sur l'éventualité d'autres cas d'accident au regard de la dégradation très avancée de plusieurs endroits sur la route Bukavu-Bunyakiri-Hombo. Destino Balienangabo invite l'exécutif provincial à prendre ses responsabilités en main pour éviter la perte des vies humaines à l'avenir. Disons aussi un mot sur l'élection de Bruno Tshibala comme président de l'UDPS. Tshibala, le 10 décembre dernier, il a cédé la présidence de son parti. Il a nommé Tarcisse Lossekié comme président délégué de ce parti. Information annoncée à Radio Okapi par le chargé des communications de l'UDPS, El Tshibala. Selon Maurice Mouyananou, le Premier ministre vient de se conformer ainsi à l'exigence constitutionnelle qui interdit le cumul des fonctions du chef d'un parti politique à celle du chef de gouvernement. Maurice Mouyananou est joint par Paul Matendo Mayamba.
Cela a été déjà annoncé dès le premier jour de son élection par le congrès extraordinaire du parti qu'il allait procéder à cette obligation constitutionnelle. Et hier, c'était fait, et aujourd'hui, nous avons le professeur Dr. Lossekié, à qui il a délégué tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il est devenu le président délégué de l'Union pour la démocratie et le progrès social.
Mais pourquoi s'était-il présenté tout en sachant qu'il était Premier ministre?
La loi elle-même, la Constitution, n'interdit pas en réalité aux membres des partis politiques, sur le plan interne, de postuler au niveau de leur regroupement politique ou parti politique, mais la loi interdit l'exercice en fait cumulé des fonctions de au sein du gouvernement avec celle de parti politique. La loi est très claire, c'est l'article 97 alinéa 2.
Interrogé, prenons le cap vers Kananga. Plus de 100 dossiers judiciaires attendent encore leur examen suite à l'insuffisance des juges au parquet près du tribunal de paix d'Ilebo au Kassai. Le coordonnateur provincial de l'Observatoire congolais des droits humains, l'OCDH au Kassai central, en séjour à Ilebo a dénoncé ce qu'il qualifie de dysfonctionnement de la justice dans ce territoire. Il a également estimé que cette situation préjudicie de nombreux justiciables de cette partie du pays. Maître Hubert Angola Dioko a été joint par Blaise Ndongala.
Le parquet Ilebo couvre pratiquement tout le territoire d'Ilebo, mais malheureusement avec un seul magistrat, premier substitut, lequel n'est pas en mesure de visiter les cachots des OPJ, lequel n'est pas en mesure d'examiner les PV d'audition venant des OPJ de la police judiciaire. La conséquence, la justice reste pour que le Conseil supérieur de la magistrature puisse supprimer à la carence, qu'on y ajoute d'autres magistrats pour sécuriser la population du Lebo et surtout donner l'image de la justice parce que tout est à terre, rien n'est fait.
Interrogé, le chef du parquet du Lebo, Soko Amissi, reconnaît cette situation et plaide pour l'affectation d'autres magistrats dans ce coin du Kassai. Et nous terminons avec cet incident en ce qui concerne la page nationale. Le calme est revenu cet après-midi au marché central de Kinshasa après la tension née de l'altercation entre un Chinois et un Congolais. Cet incident a créé la panique au grand marché. D'après le porte-parole de la police nationale, le Chinois à la base de l'incident est actuellement en état d'arrestation. Le colonel Pierrot Manamputu ajoute que les établissements de ce Chinois ont été scellés, cela en attendant de le mettre à la disposition de la justice. Entre-temps, le Congolais poignardé se trouve dans un centre hospitalier pour des soins appropriés.
Actualité Afrique Monde.
Et cette page internationale par des Pays-Bas, un tribunal néerlandais a condamné ce vendredi à la réclusion à perpétuité, peine rare aux Pays-Bas, un ancien collaborateur de l'ex-dictateur marxiste éthiopien Mengistu Haile Mariam pour des crimes commis en Éthiopie pendant la terreur rouge des années 1970. Eshetu Alenu, un éthiopien naturalisé néerlandais âgé de 63 ans, est coupable de crimes de guerre et a traité ses concitoyens d'une manière froide et calculatrice, y compris en les privant de leur droit à la vie, a déclaré ainsi la juge affirmant que la perpétuité était la seule mesure appropriée. L'Union européenne va avoir des contacts exploratoires avec Londres sur les liens avec le Royaume-Uni après le Brexit prévu fin mars 2019, a indiqué aujourd'hui le président du Conseil européen Donald Tusk, réaffirmant que la tâche à venir serait difficile. Interrogé pour savoir s'il était possible de parvenir à un accord de retrait du Royaume-Uni d'ici le 29 mars 2019, M. Tusk a estimé que c'était toujours réaliste mais bien sûr dramatiquement difficile. Et puis, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont affirmé ce vendredi vouloir arriver à une position commune en mars prochain sur les réformes de la zone euro à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Nous allons trouver une solution commune car c'est nécessaire pour l'Europe, a précisé Mme Merkel lors d'une conférence de presse commune avec le président français. Quand on veut, on peut, a insisté la chancelière. M. Macron a fait part de son côté de la volonté que nous avons l'un et l'autre de converger dès le mois de mars. Enfin, un Palestinien portant autour de la taille un dispositif ressemblant à une ceinture d'explosifs a attaqué des policiers israéliens aujourd'hui à la sortie de Ramallah en Cisjordanie occupée et a été atteint par balles selon des photographes de l'AFP. La police israélienne a dit enquêter pour savoir si le Palestinien portait effectivement un tel dispositif et si ce dernier était authentique ou pas. Aucune confirmation indépendante de l'authenticité ou non de cette ceinture n'a pu être obtenue par ailleurs. Le recours à un tel dispositif serait exceptionnel dans le contexte des violences récentes entre Israéliens et Palestiniens.